L'après-midi était très avancé. Le soleil brillait dans les flaques d'eau laissées par un petit orage. Une odeur de forêt, de terre humide et de vieilles racines montait du sol. Je courais le long du lac en pensant au comportement de Lydia. J'étais toujours persuadé qu'elle avait dit la vérité sous hypnose, mais je ne savais pas de quelle façon. Quelle vérité avait-elle vraiment racontée? Elle avait probablement décrit un souvenir réel, concret, mais l'avait mal situé dans le temps. Sous hypnose, il est encore plus flagrant que le passé n'est pas le passé, me répétais-je intérieurement. Je remplis mes poumons de l'air estival frais et rafraîchissant et sprintai sur le reste du trajet à travers la forêt. En arrivant dans notre rue, je vis une grande voiture noire garée près de notre entrée. Deux hommes attendaient impatiemment devant la voiture. L'un d'entre eux regardait son reflet dans la peinture vernie de la voiture et fumait une cigarette avec des mouvements rapides. L'autre prenait quelques photos de notre maison. Il ne m'avait pas encore vu. Je ralentis et me demandai si j'aurais le temps de faire demi-tour au moment où ils m'aperçurent. L'homme écrasa rapidement sa cigarette sous son pied, l'autre tourna hâtivement l'appareil photo vers moi. Je m'approchai d'eux, encore essoufflé. « Eric Maria Barque ?» demanda l'homme à la cigarette. « Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Nous travaillons pour le journal du soir Expressen. »
« Expressen ?»«
Oui, nous aurions aimé vous poser quelques questions au sujet de l'un de vos patients. »
Je secouai la tête. Je ne discute pas de ça en dehors du cadre professionnel.
Ah bon?
Le regard de l'homme scruta mon visage cramoisi, mon pull de sport noir, mon pantalon difforme et mon bonnet pointu. J'entendis le photographe tousser derrière lui. Un oiseau piqua dans l'air au-dessus de nous, son corps glissa, dessinant une courbe parfaite qui se refléta sur le toit de la voiture. Je vis le ciel se charger et s'assombrir au-dessus de la forêt. Peut-être y aurait-il encore de la pluie ce soir.
Votre patiente est interviewée dans le journal de demain. Elle porte des accusations assez graves à votre sujet, dit le journaliste sèchement.
Je croisai son regard. Il avait un visage plutôt sympathique, entre deux âges, légèrement flasque.
Vous avez là l'opportunité de réfuter ces affirmations, ajouta-t-il à voix basse.
Les fenêtres de notre maison étaient obscures. Simone était sans doute encore en ville à la galerie. Benjamin était encore à l'école. Je souris à l'homme qui me dit d'un air sincère « Autrement, sa version paraîtra incontestée.
Il ne me viendrait jamais à l'esprit de faire des commentaires sur l'un de mes patients. »
Je passai devant les deux hommes, me dirigeai vers l'entrée de la maison, ouvris la porte, entrai et restai ensuite dans le vestibule jusqu'à ce que je les aie entendus partir. Le matin suivant, le téléphone sonna à 7h. C'était la directrice de l'hôpital Karolinska, Annika Lorenzen.
« Eric, » dit-elle d'une voix tendue, « vous avez lu le journal ?»
Simone se redressa dans le lit à côté de moi et m'adressa un regard inquiet. Je l'ai conduisit d'un geste et sortit dans le vestibule.
« S'il s'agit des accusations de Lydia, je pense que tout le monde verra que ce sont des mensonges. »«
Non, »
dit-elle d'une voix stridente.
Beaucoup la voient comme quelqu'un de faible et de fragile. Une femme sans défense, victime d'un médecin particulièrement manipulateur qui ne prend pas sa profession au sérieux. L'homme en qui elle avait le plus confiance, à qui elle s'était livrée, l'a trahi et exploité. C'est ce que dit le journal.
J'entendais sa respiration soutenue dans le combiné. Elle reprit d'une voix rauque et lasse.
Vous comprenez bien que ça porte préjudice à toute notre activité.
Je vais user de mon droit de réponse. Dis-je sèchement.
Ça ne suffira pas, Eric.
Elle marqua une brève pause, puis elle lâcha d'une voix monocorde.
Elle compte nous poursuivre en justice.
Elle ne gagnera jamais un procès, objectai-je.
Vous n'avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation, Eric.
Qu'est-ce qu'elle a dit au juste?
Je vous conseille d'aller acheter le journal. Ensuite, vous feriez mieux de vous poser et de songer à la manière d'affronter tout cela. Vous êtes convoqué devant le conseil d'administration aujourd'hui à 16h.
En voyant mon visage à la une des journaux, j'eus l'impression que mon cœur ralentissait. C'était un gros plan de moi, en pull et bonnet pointu, le visage cramoisi, l'air presque apathique. Je descendis de vélo les jambes flageolantes, acheter le journal et retourner à la maison. Une photo floutée de Lydia, recroquevillée sur elle-même, un nounours dans les bras, trônait au beau milieu de la page. Tout l'article parlait de la manière dont moi, Eric Maria Barque, je l'avais hypnotisé, utilisé comme un vulgaire animal de laboratoire et persécuté avec des allégations d'abus et de violence. Selon le journaliste, elle avait pleuré et expliqué qu'elle n'était pas intéressée par de quelconques dommages et intérêts. L'argent ne pourrait jamais compenser ce qu'elle avait vécu. Elle en ressortait complètement brisée et avait avoué des choses que j'avais glissées dans sa bouche sous hypnose profonde. La persécution que je lui faisais subir avait touché à son comble lorsque j'avais pris sa maison d'assaut et l'avait exhortée à se suicider. Elle avait voulu mourir, avait-elle raconté. C'était comme si elle avait été dans une secte dont j'étais le gourou, dépourvue de toute volonté propre. Ce ne fut qu'après son hospitalisation qu'elle osa commencer à remettre en cause mon traitement. Elle exigeait désormais que l'on m'interdise d'exercer à vie et de faire subir à mes semblables ce qu'elle avait vécu. Sur la page suivante, on voyait une photo de Marek. Il soutenait Lydia, disait que mon activité était vraiment très dangereuse, que j'inventais des choses tordues, que je leur forçais ensuite à admettre sous hypnose que c'était une véritable obsession chez moi. Plus loin, l'expert Geran Serensen donnait son avis. Je n'avais jamais entendu parler de ce type auparavant. Mais il était là, en train de condamner toute ma recherche. Il comparait l'hypnose au spiritisme et laissait entendre que je devais droguer mes patients pour les obliger à faire ce que je voulais. Ma tête se vida. Le silence se fit en moi. J'entendis le tic-tac de la pendule sur le mur de la cuisine, le grondement passager d'une voiture dans la rue. La porte s'ouvrit et Simone entra. Elle lut le journal, le visage livide.
« Que se passe-t-il ? » chuchota-t-elle.
« Je ne sais pas, » dis-je, et je sentis que j'avais la bouche toute sèche. Je restai assis à regarder dans le vide. Et si je m'étais trompé dans mes théories ? Et si l'hypnose ne fonctionnait pas sur des gens profondément traumatisés ? Et si ma volonté de trouver des schémas influençait leurs souvenirs ? Je n'avais pas cru qu'il était possible pour Lydia de voir sous hypnose un enfant qui n'existait pas. J'étais convaincu qu'elle décrivait un vrai souvenir. Mais maintenant, je commençais à douter. J'éprouvais une étrange sensation en montant au bureau d'Annika Lorenzen. Aucun membre du personnel ne voulut me regarder dans les yeux. Quand je croisais des personnes que je connaissais et fréquentais, elles semblaient stressées, mal à l'aise, tournaient la tête et s'empressaient de passer leur chemin. Même l'odeur dans l'ascenseur m'était étrangère, un parfum de fleurs pourries qui me fit penser à des funérailles, à de la pluie, à des adieux. En sortant de l'ascenseur, Maya Swartling passa rapidement devant moi. Elle fit mine de ne pas me voir. Rainer Milch attendait devant la porte du bureau d'Annika Lorenzen. Il s'écarta. Je le saluai et entrai.
« Eric, installez-vous, » dit Rainer.
« Merci, je préfère rester debout, » dis-je en regrettant aussitôt mon ton sec. Je me demandais ce que Maya Swartling pouvait bien faire à la direction. Elle était peut-être venue pour me défendre. D'ailleurs, elle était l'une des seules à véritablement connaître mes recherches. Annika Lorenzen se trouvait près de la fenêtre de l'autre côté de la pièce. Je trouvais à la fois impoli et inhabituel de sa part de ne pas me saluer. Elle tenait ses bras serrés autour du corps et regardait dehors.
« Nous vous avons donné une réelle opportunité, Eric, » dit Peder Mellarsted.
Rainer Milch acquiesça.
« Mais vous avez refusé de prendre du recul, » dit-il. « Vous avez refusé de vous écarter spontanément pendant que nous menions nos investigations. »«
Je pourrais reconsidérer la chose, » dis-je à voix basse. Je pourrais...
Il est trop tard maintenant. Nous aurions pu utiliser ça pour nous défendre avant-hier. Aujourd'hui, ce serait juste pathétique.
Annika Lorenzen ouvrit la bouche.
Je...
dit-elle d'une voix faible sans se retourner vers moi. Je vais sur le plateau du journal télévisé Rapport ce soir pour essayer d'expliquer comment nous avons pu vous permettre de continuer.
Mais je n'ai rien fait de mal,
Le fait qu'un patient avance des allégations absurdes ne peut tout de même pas remettre en cause des années de recherche, d'innombrables traitements qui ont été toujours au-delà de tout reproche.
Ce n'est pas qu'un patient, interrompit Rainer Milch. Il y en a plusieurs.
En outre, un expert s'est prononcé sur votre recherche.
Il secoua la tête et se tut.
Ce Geran Serensen ? Demandai-je agacé. Je n'en ai jamais entendu parler et visiblement il n'y connaît rien.
Nous avons un contact qui a étudié votre travail depuis plusieurs années, expliqua Rainer Milch en se grattant le cou. Elle dit que vous avancez beaucoup de choses, mais que vous construisez quasiment toutes vos thèses sur des châteaux en Espagne. Vous n'avez aucune preuve et vous faites abstraction de l'intérêt de vos patients pour arriver à vos fins.
J'étais abasourdi.
Comment s'appelle votre expert ? Finis-je par demander.
Ils ne répondirent pas.
Elle ne s'appellerait pas Maya Swartling par hasard ?
Annika Lorenzen rougit.
Eric, dit-elle en se tournant enfin vers moi, vous êtes suspendu à compter d'aujourd'hui. Je ne vous veux plus dans mon hôpital.
Et mes patients, je dois m'occuper de...
Ils seront transférés, m'interrompit-elle.
Ils vont souffrir de...
Eh bien ce sera votre faute, dit-elle d'une voix forte.
La pièce était complètement silencieuse. Frank Paulson avait tourné la tête. Ronnie Johansson, Peter Mellarsted, Rainer Milch et Svein Holstein étaient restés de marbre.
Dans ce cas, fis-je d'une voix creuse. À peine quelques semaines plus tôt, je m'étais trouvé dans la même pièce et on m'avait accordé de nouvelles subventions. Maintenant, tout était fini, d'un seul coup. Lorsque je sortis, quelques personnes s'approchèrent de moi. Une blonde très grande tendit un micro devant mon visage.
« Bonjour, » dit-elle fraîchement. « Je voulais vous demander de faire un commentaire sur un de vos autres patients, une femme du nom d'Eva Blow, internée la semaine dernière dans un service de psychiatrie fermé. »«
De quoi parlez-vous ? »
Je me détournai, mais le cadreur me suivit avec sa caméra. L'œil sombre de l'objectif me scrutait. Je regardai la femme blonde, vis son badge sur la poitrine, Stéphanie von Sydow, son bonnet blanc tricoté, et la main qui faisait signe à la caméra de s'approcher.
« Pensez-vous toujours que l'hypnose soit une bonne forme de traitement ? » demanda-t-elle.
« Oui, » répondis-je.
« Donc, vous allez continuer de pratiquer ? »